littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Eva Piedel. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que l'humanité est en train de faire à la planète, aux animaux, aux océans, aux forêts? Et si notre lien à la nature devait être totalement reconsidéré pour avoir une chance, une toute petite chance, de sauver la Terre, menée de destruction totale au regard du dérèglement climatique qui s'accélère? Voici l'une des questions majeures du nouveau roman de notre invité aujourd'hui, qui publie une fiction traduite en français aux éditions Hervé Chopin par Catherine Leterrier sous le titre « Âme animale » au pluriel. Bonjour José Rodríguez dos Santos.
Bonjour.
Depuis La formule de Dieu, il y a 15 ans, vous êtes sans doute à ce jour l'écrivain portugais qui connaît le plus de succès au monde, avec une douzaine de romans vendus à plusieurs millions d'exemplaires en 18 langues. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui puisque votre venue à Paris fait aussi écho à la saison France-Portugal qui, depuis février jusqu'en octobre 2022, permet à nos deux pays amis de renforcer les liens culturels qui nous unissent depuis longtemps et que vous illustrez à merveille puisque vous parlez français couramment, ce qui est un honneur. Quel est votre lien à la France d'ailleurs? Est-ce que c'est la littérature, le cinéma, le vin, la nourriture?
Je suis né en effet au Mozambique, je suis un pied noir portugais. J'ai appris 2 années au lycée le français, mais j'aimais beaucoup la bande dessinée. Et bon, je lisais les bouquins et les albums en portugais, mais puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres qui n'étaient pas traduits et ils étaient en français. Alors j'ai commencé à lire et c'est ainsi que ces bandes dessinées, c'est ainsi que j'ai développé mon français. Même si quand j'arrivais ici en France et je commençais à parler, quelquefois mon éditeur me disait « Bon, et José, écoute, il ne faut pas dire patotatis, parce que c'est pas normal.
Comme dans
c'est un français de bande dessinée.
Alors, je le dis aussi à nos auditrices et à nos auditeurs, vous êtes journaliste de formation, reporter de guerre. Vous êtes allé en Syrie, en Irak, en Ukraine, où aujourd'hui, hélas, il se passe cette guerre terrible. Et vous êtes présentateur vedette du 20h au Portugal. Vous êtes toujours à l'antenne en ce moment?
Oui, je présente le journal au Portugal il y a 31 ans.
Depuis 31 ans?
Exactement.
Et vous avez le temps d'écrire aussi?
Oui. Vous savez, après faire le journal pendant une quinzaine d'années, je cherchais quelque chose de différent. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire des romans. Et j'ai découvert que je pouvais, en effet, concilier les deux métiers.
Donc, c'est une double star que je reçois aujourd'hui. À la fois une star de la télévision, de l'information et une star des librairies.
Bon, je ne suis qu'un auteur de bouquins et voilà.
Alors, on va parler de ce nouveau livre que vous publiez, donc « Âme animale », ce nouveau roman qui nous permet de retrouver votre personnage récurrent, Tomás Noronha. J'espère bien le prononcer.
Oui, Tomás Noronha.
Voilà, Tomás Noronha, qui est historien. Et cette fois, il est embarqué avec sa femme dans une histoire d'assassinat qui touche directement le monde animal. Un monde dont vous faites ici l'éloge et nous y reviendrons. Et pourtant, en postface, dans une note finale, vous écrivez, J.R. dos Santos, que vos relations avec les animaux n'ont jamais été simples. Pourquoi ?
Bon, quand j'étais petit, j'avais des difficultés à avoir un rapport avec les animaux. J'avais peur, en effet, des chiens. Et encore aujourd'hui, il y a quelque chose là. J'ai écrit un bouquin sur les animaux, la cognition, les émotions et tout ce qui se passe autour des animaux. Mais je ne suis pas un fanatique sur les animaux. J'ai appris beaucoup. C'est pas seulement pour les gens qui aiment les animaux, mais pour les autres qui ne comprend pas beaucoup le sujet, mais il faut le comprendre, il est central à notre existence. Je suis une personne très rationnelle. J'ai commencé à comprendre que nous sommes, à cet instant-là, dans une révolution de la connaissance scientifique sur les animaux. Pendant longtemps, et ça vient des René Descartes croyait que les animaux sont des automates biologiques quand un chien, on coupe un chien vivant, et évidemment, il hurle de douleur. Descartes disait, non, c'est pas de la douleur, c'est automatique. Quand on ouvre une montre, évidemment, le mécanisme, il fait des bruits, mais il n'a pas de sentiments. Les animaux, c'est la même chose. Et cette idée rationnelle de Descartes était très présente dans la science. On disait, il y a l'être humain, c'est l'animal rationnel, il y a des autres animaux, les irrationnels. Ils ne sont pas rationnels. Et évidemment, à cet instant-là, on est en train de faire un tas de découvertes qui montrent que c'est autrement. Tout ce que les êtres humains font, les animaux le font aussi.
Voilà.
Mais à un degré différent.
Et on y arrive immédiatement parce que via donc une trame romanesque, on l'a dit, qui s'ouvre sur l'assassinat à Lisbonne, dans un musée océanographique d'un éthologue, c'est-à-dire un scientifique qui étudie le comportement des espèces animales, un homme prénommé à juste titre Noé, comme le sauveur de l'arche, et qui aurait sans doute été tué dans un aquarium par un orque. À partir de là, est basé sur une documentation phénoménale, aussi passionnante que déprimante, parfois, nous y reviendrons, vous désamorcez, J.R. Dos Santos, toutes les fausses idées que l'humanité a sur les animaux. Et preuve à l'appui, avec de nombreuses études scientifiques que vous citez, on apprend que le monde animal est aussi intelligent que le monde humain, et ce, dans de très, très nombreux domaines. Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois exemples ?
Ah oui, la chose que j'ai découverte chez les animaux, c'est que tout ce que nous pouvons faire, ils peuvent faire la même chose, mais à un degré différent. Par exemple, on disait l'être humain, les hommes sont les seuls animaux qui sont capables d'utiliser des instruments.
De fabriquer des outils.
Exactement, des outils. Et finalement, on a découvert que les chimpanzés, ils le faisaient. Et puis, on a découvert que les gorilles, ils avaient des outils aussi. Et puis, même les fourmis, ils sont capables d'utiliser des outils. Alors, finalement, nous ne sommes pas exceptionnels. Et on pense, le sentiment d'amour, c'est seulement l'être humain qui peut l'avoir. Et finalement, on a découvert qu'un tas d'animaux ont le sentiment d'amour. Et une personne qui a un animal chez elle peut le dire de son chien ou de son chat qu'il a le sentiment d'amour, il est là. Et de haine aussi, ils sont comme nous. Et alors, il y a une continuité entre l'être humain et les animaux. Et dans certains sens, on dit nous sommes plus intelligents. Oui, dans certains sens, mais regardez, si on me jette à la jungle et avec un chimpanzé, le chimpanzé, il va vivre. Et moi, je vais être tué en une journée, certainement, en quelques heures, peut-être même. Il est plus intelligent dans la jungle que je le suis. Vous voyez, il y a des pigeons qui sont capables d'un système d'orientation beaucoup plus développé que nous. Ils sont plus intelligents que nous dans l'orientation.
Et des calculs mathématiques.
Il y a, exactement.
Dans tous les domaines, en effet, fabrication d'outils. Alors, on l'a dit, sciences mathématiques, ils savent compter, mais c'est aussi le langage.
Le langage, c'est étonnant.
Le langage, c'est magnifique, tout ce que vous dites sur le langage. Parce que non seulement ils parlent entre eux, mais ils peuvent parler avec l'être humain.
C'est une découverte récente. Les animaux, ils ont du langage avec du syntaxe. La grammatique.
La grammaire.
Avec la grammaire, le sujet, le prédicat, tout cela, ils l'ont.
Il y a même des accents.
Des accents.
Selon les régions.
Exactement. Il y a une découverte étonnante sur les perroquets. Au Portugal, on dit « il perroque ». Ça veut dire « il dit quelque chose qu'il ne comprend pas ». Mais on a découvert et on a prouvé, établi scientifiquement, que les perroquets, ils comprennent ce qu'ils disent. Quand ils disent « salut », il comprend que c'est salut. Quand ils disent merci, il comprend que c'est merci. Et alors, c'est étonnant.
Les pratiques culturelles aussi, ils ont le sens du deuil. Ils peuvent organiser des funérailles. Il y a des fêtes de famille.
Des oiseaux, des singes qu'ils font. Oui, ça se passe. Et toutes ces découvertes nous amènent à poser la question. Mais bon, puisque les animaux ne sont qu'une continuité de nous, et nous sommes une continuité des animaux, et chaque animal est différent. Qu'est-ce qu'on fait aux animaux ? Qu'est-ce qu'on fait aux animaux ? Est-ce qu'on leur rend justice ? Parce que les animaux, ils ne sont que nos esclaves. Nous sommes en train de détruire leur maison. C'est les forêts, par exemple. Nous sommes en train de faire une conquête de toute la planète. Et Et pour les animaux, c'est terrible. Il y a un chiffre que je trouve vraiment épouvantable, c'est qu'on a découvert que la biomasse des animaux vertébrés en liberté, c'est seulement 3%. Ça veut dire que 97% de la biomasse des animaux vertébrés sont nos esclaves. Et ça nous dit beaucoup sur nous. Et ça, il nous faut, par une raison éthique, changer. Et changer avec nos habitudes, par exemple, de nourriture.
On va y arriver, on va y arriver. Donc voilà votre roman, J.R. Dos Santos, qu'il est difficile de résumer parce que à la fois c'est un roman avec une intrigue, avec un meurtre à la clé qu'il faut résoudre et qui se passe donc dans ce milieu des animaux où on voit Noé qui, avant d'être assassiné, avait dans une maison justement installé une guenon guida avec qui il communiquait, et puis un perroquet carioca, mais aussi des vaches, Alice avec qui il jouait à cache-cache.
Parce qu'il faisait des recherches sur la cognition animale.
Voilà, il faisait des recherches, mais il avait réussi à instaurer comme ça ses relations pacifiques avec tous ces animaux. Donc ça, c'est toute la partie émerveillement de votre livre. Et puis ensuite, vont arriver des choses plus terribles, puisque au fur et à mesure de l'enquête, il va être question de tout ce qu'on fait subir aux animaux destinés à la consommation dans les abattoirs ou quand ils servent de cobayes dans les laboratoires. Avec là encore, d'ailleurs, je le souligne, J.R. Dos Santos, beaucoup de fausses idées sur le sujet. Les traitements barbares qu'on inflige aux animaux peuvent être bénéfiques sur eux, mais pas forcément sur les humains, et inversement.
Exactement. C'est une chose finalement évidente, parce que chaque personne est différente. C'est pourquoi les médicaments, souvent, ils marchent très bien avec une personne, mais ils ne marchent pas avec l'autre personne. Et alors, si ça se passe avec les êtres humains, imaginez-vous avec les animaux. Alors, comment est-ce qu'on peut attendre que si on fait une expérience avec un médicament, avec des animaux, qui a un ADN différent de nous, comment on peut attendre que ce qui marche avec l'animal va marcher aussi avec nous? Nous avons un ADN différent, nous sommes des organismes différents. Même entre nous, il y a des différences très importantes. Il y a des gens qui prennent la Covid-19 et ça ne fait rien, et des autres qui meurent. Alors, comment peut-on attendre que des expériences, des médicaments avec les animaux peuvent être valides pour des êtres humains? Alors, si elles ne sont pas valides, parce que finalement, c'est ça ce qui se passe, elles ne sont pas valides, pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça? Et c'est une cruauté vraiment inutile, évidemment pour eux et pour nous aussi. Parce que la seule raison pourquoi on fait ces expériences, c'est pour donner une protection juridique aux compagnies qui développent les médicaments. Mais ce n'est pas suffisant. Alors on fait la torture pour donner une protection juridique. Il faut changer la loi, évidemment.
Il faut changer. Et c'est ce qu'on va voir avec vous dans la deuxième partie de l'émission J.R. Dos Santos, le temps de cette illustration musicale. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain portugais J.R. Dos Santos, dont le nouveau roman vient de paraître en français aux éditions Hervé Chopin sous le titre Âmes animales. Peut-être que je devrais faire la liaison d'ailleurs, Âmes animales. une fiction très documentée, on l'a dit, où sur le modèle des dialogues de Platon émerge une réalité beaucoup trop peu connue, à savoir l'intelligence de toutes les espèces animales. Et c'est une révélation que va faire votre héros Tomáš pour sauver sa femme soupçonnée d'avoir tué un scientifique, un éthologue, Noé, qui vouait sa vie et son travail à prouver au monde entier la nécessité de reconnaître que les animaux sont égaux aux hommes et qu'à ce titre, ils ont des droits qui pourtant sont bafoués. On est loin de l'image idyllique, d'ailleurs, d'une entente harmonieuse entre toutes les espèces, comme on peut le voir dans une partie du tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, qui a un rôle clé ici dans l'intrigue. C'est un tableau, un triptyque, dont le panneau central montre une espèce de paradis. Est-ce que c'est un tableau qui est une référence pour vous, J.R. Dos Santos ?
Oui, je dirais que le tableau de Bosch, le Jardin des Délices, on dit que c'est le plus mystérieux tableau qui existe. Il y a un tas de secrets là-dedans et de messages cachés. Et ces messages ont un rapport avec la nature et les animaux. Et puisque c'est une œuvre d'art ancienne,
il y a du 15e siècle.
Du 15e siècle, justement. C'est intéressant parce qu'elle va nous amener à des idées ésotériques de cette époque-là. Et dans le tableau, on va trouver la clé pour trouver qui a tué Noé. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un polar, finalement, un animal, c'est un polar. Quelqu'un a tué Noé, Noé van den Bosch, c'est un éthologue belge à Lisbonne. Il faut trouver qui l'a tué. Il y a des suspects. Et notre héros, pour sauver sa femme, qui est elle-même suspecte par la police, et elle a été arrêtée à cause de ses suspicions, il doit résoudre le mystère de la mort de Noé. Et alors le tableau, il va donner des clés pour y arriver. Et c'est dans cette enquête du personnage, c'est une enquête fictionnelle évidemment, qui va nous ramener à des informations avérées, des découvertes avérées sur les animaux et tout ce qui se passe autour d'eux, leur cognition. Vous savez qu'il y a une chose que c'est toujours surprenante, je pense, je pose la question, mais quel est l'animal le plus intelligent de la planète après l'homme en termes d'intelligence générale? Tout le monde va dire, bon, c'est le chimpanzé. Mais finalement, non, on a découvert, c'est le corbeau.
Le corbeau, en effet.
Exactement, il est plus intelligent que le chimpanzé, un petit peu plus, pas beaucoup, mais un petit peu plus. C'est vraiment formidable, les découvertes qui ont été faites. Et ça montre, ça donne la réponse à un des grands mystères de l'humanité. C'est le mystère, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Est-ce que l'homme est le seul être intelligent dans l'univers entier et tout cela? Et la réponse, non. Par deux raisons. Première, parce qu'autour de nous, il y a plein d'intelligences. Il faut seulement regarder les animaux.
Et pour rester sur ce tableau de Jérôme Bosch, à noter également que le troisième pan montre une vision apocalyptique, celle qui nous attend probablement. C'est assez frappant de voir comment ce peintre flamand, six siècles avant aujourd'hui, a pu imaginer la fin de la Terre. Et c'est là où on en arrive au point crucial de votre roman, J.R. Dos Santos, quand vous démontrez que c'est l'industrie alimentaire et les élevages intensifs d'animaux qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique. Et je vais juste lire ces quelques mots que j'ai soulignés. Nous sommes page 445, mais tout ça est frappant. Près de 70% de l'eau douce consommée dans le monde n'est pas directement destinée aux personnes, mais à l'agriculture, en particulier à l'élevage. Un peu plus tard, nous sommes environ 8 milliards de personnes, mais chaque année nous tuons 70 milliards d'animaux terrestres pour nous nourrir. Encore des informations, et pour arriver à cette phrase clé, que pour produire 1 kilo de steak, il faut 13 000 litres d'eau. Oui. Donc si on multiplie tous les kilos de steak mangés par les hommes, les femmes sur la Terre au quotidien, on comprend pourquoi l'eau risque à manquer très vite.
Oui, c'est basé sur des études scientifiques très pointues à ce sujet-là. On parle aujourd'hui de changement climatique. Et on parle, quand on parle du changement climatique, on parle du dioxyde de carbone, du gaz, du pétrole, du charbon.
De la pollution industrielle.
Exactement, tout cela. Et nous sommes avec cette guerre avec
en Ukraine
contre la Russie. Il faut faire le boycott de la production du gaz et du pétrole russe et bon, tout cela. Mais c'est vrai que le dioxyde de carbone, il est très important en tant que gaz d'effet de serre. Mais beaucoup pire que le dioxyde de carbone, c'est le méthane.
Qui est produit par le bétail.
Le bétail, exactement. L'effet de serre du méthane, c'est 80 plus fort que le dioxyde de carbone. Et toutefois, on ne parle que du dioxyde de carbone. On ne parle que du gaz et du pétrole, mais on ne parle pas de la viande. Mais c'est là le grand problème. Et en plus, si on coupe la production du viande, la récupération pour l'état intérieur, c'est très vite, c'est 10 années.
Oui.
En 10 années, on peut retourner au point d'avant, vous comprenez ?
C'est effectivement ce que vous écrivez. La production de viande, d'œufs et de lait a plus d'impact sur le réchauffement climatique mondial que tous les gaz émis par l'ensemble des voitures, des camions, des avions, des bateaux et des trains sur la totalité de la planète. Et on oublie aussi, dans cette industrie à outrance, c'est que la guerre d'extermination contre les animaux, elle se joue aussi contre les espèces sous-marines. Et vous nous dites, J.R. Dos Santos, que la vie aura disparu des océans en 2050, dans 28 ans?
Oui, bon, pas toute la vie, mais dans beaucoup de morceaux dans les océans, ça c'est inévitable. Il y a la surpêche, c'est une chose incroyable. Et, bon, les chiffres là sont très clairs quand on trouve la réalité d'aujourd'hui et la tendance que les choses prennent, c'est vraiment étonnant. Alors, il nous faut faire quelque chose là. Et il nous faut changer la façon comment on mange. Et bon, les gens vont dire, mais, et avec raison, mais on ne peut pas manger du poisson. On ne peut pas manger de la viande, mais qu'est-ce qu'on va manger? Il nous faut manger quelque chose.
Oui,
finalement.
Parce qu'il y a toujours ce fantasme aussi de la protéine animale qui est absolument nécessaire à la constitution de l'homme.
Mais la protéine dans les plantes.
Voilà, les protéines sont partout. En fait, la protéine qu'on mange dans le lait de la chèvre ou de la vache, c'est parce qu'elle-même l'a trouvée dans les
Exactement.
Plantes qu'elle a ingérées.
Alors, nous pouvons aller directement à la source.
Ouais.
Et vous savez, les territoires, les terres agricoles sont limitées dans la planète.
Oui.
Et elles sont presque toutes prises. Seulement, celles dans les forêts équatoriales, telles que le Congo ou l'Amazonie, ne sont pas encore prises. Mais nous sommes en train d'y arriver. Et alors, si nous arrêtons de manger de la viande, et on peut le faire d'une façon flexible. Par exemple, si une personne mange de la viande toutes les journées, bon, pourquoi pas manger une fois par semaine, par exemple? Ça, en effet, très, très puissant. Alors, si on arrête de manger la viande, on va manger les produits de la terre végétale. Et du point de vue de santé, c'est beaucoup mieux aussi.
Mmh.
Et il nous faut toujours nous rappeler que quand on est en train de détruire la forêt de l'Amazonie, on dit « Oh, c'est la faute des Brésiliens », tout ça. Non, c'est pas vrai. Les Brésiliens, ils coupent l'Amazonie pour produire du bétail pour nous, parce que nous mangeons de la viande. Si nous arrêtons de manger de la viande, ils vont finir de produire. Ils vont retourner la terre à la nature.
S'il n'y a plus de demande, il n'y aura plus d'offres.
Exactement.
Mais ce que j'aimerais comprendre avec vous, J.R. Dos Santos, et d'ailleurs, c'est une question que pose un de vos personnages, c'est le policier, en l'occurrence, qui est un peu le naïf. Cet assèchement des nappes d'eau douce, la déforestation, la fabrication du méthane, qui est donc pire que le dioxyde de carbone, tout ce qui participe à ce dérèglement climatique, pourquoi personne n'en parle vraiment? Pourquoi un tel silence est possible et qu'on parle uniquement de la pollution industrielle et qu'on dit arrêtez de prendre des douches, arrêtez de prendre votre voiture, faites du vélo, et personne ne dit vraiment arrêtez de manger de la viande?
Oui, c'est étonnant. C'est difficile à répondre à cette question. Je pense que les gens aiment manger de la viande. Je pense que les gens ne sont pas disponibles pour arrêter avec ce changement climatique. Écoutez, je suis arrivé à Paris et c'est presque 30 degrés. C'est pas normal, hein, au printemps. Au Portugal, c'est presque 40 degrés. En Inde, c'est presque 50 degrés. C'est pas normal, il faut arrêter avec ça. Et l'agent du changement, c'est nous.
Oui.
Et il ne faut pas dire, oh, c'est le politicien, c'est Macron, c'est Marine Le Pen. Ça ne vaut rien. Les politiciens, ils font ce que nous voulons. Et alors, si nous voulons arrêter ça, il nous faut arrêter de manger de la viande. Du moment qu'on arrête de manger de la viande, l'effet, c'est qu'on ne produit plus, car il n'y a pas de consommation. Et du moment qu'on fait ça, tout change. Et c'est nous. Il ne faut pas amener la responsabilité pour des autres. C'est très typique. Et je pense que c'est le problème central, là. Les politiciens n'aiment pas parler. Écoutez, nous sommes en France, un pays agricole. L'agriculture, les gens n'aiment pas d'entendre ce genre de choses. Ça ne donne pas des votes. Mais c'est la vérité. Et ils nous font la comprendre. J'ai beaucoup de gens qui me disent, après lire le bouquin, il faut souligner, le bouquin n'est pas écrit par un vegan, par un fanatique sur les choses animales. Non, c'est une personne. Je mangeais viande normalement, je n'aimais même pas beaucoup les animaux. Mais je me suis rendu compte, par la recherche que j'ai faite, de l'effet catastrophique de nos habitudes. Et le bouquin le présente d'une façon très claire. Quand, pour faire, vous avez dit, un kilo de beefsteak, c'est 13 000 litres d'eau. J'ai beaucoup de gens qui me disent, après lire le bouquin, j'ai changé. Et je pense que nous avons cette possibilité. Je vous donne un exemple, l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui aimait beaucoup la viande. Aujourd'hui, les Allemands, ils ne mangent pas beaucoup de viande. Ils ont remplacé la viande par des végétables qui ressemblent à la viande, qui ont peut-être le même goût que la viande, mais ce n'est pas de la viande. Et finalement, c'est le chemin pour suivre. Et du point de vue de la nature, c'est beaucoup mieux.
Oui, parce qu'en plus...
La santé, je veux dire.
Oui, c'est ça. C'est que cette nourriture industrielle, on a oublié de le dire, c'est un poison.
Exactement.
Qui nous intoxique petit à petit.
Vous savez... La viande est la première cause du cancer. La première. Avant, c'était le tabac. Aujourd'hui, c'est la viande. Si on mange la viande, on travaille pour développer le cancer. Alors, du point de vue de la santé, ça ne fait aucun sens. Donc, le pouvoir de changer les choses, c'est à nous-mêmes, c'est pas aux autres.
En effet, c'est tout ce qu'on apprend dans ce roman « Âme animale ». J.R. Dos Santos, qu'à la fois nous avons notre destin entre nos mains et qu'il ne faut plus rejeter la faute sur les politiciens, même les écologistes, visiblement, ils sont un peu dans l'impasse. C'est à nous de prendre en charge cette planète, cette maison et d'être aussi dans une alliance avec les animaux. Cette espèce qui est notre égale. Et n'oubliez pas, quand vous ne mangez pas de steak, vous économisez 13 000 litres d'eau pour la planète, et c'est beaucoup. Merci encore. Je rappelle le titre de ce livre, Âme animale au pluriel, traduit du portugais par Catherine Le Terrier, un roman de J.R. Dos Santos, publié aux éditions Hervé Chopin.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Eva Piedel.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.